Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International. Heureuse de vous retrouver en ce week-end de Pâques. Avant de débuter cette émission, je voudrais, en mon nom et en celui de David Finzel et chez Médar Chablaoui, remercier tous ceux qui nous ont si bien accueillis à Dakar, de l'aéroport à l'université, cher Antar Diop, et à l'Institut français, tous ceux qui nous ont aidés, qui nous ont encouragés et surtout qui sont venus nous saluer. Nous avons donc vérifié sur place que le Sénégal est vraiment le pays de la teranga. Diore Diop, dit-on là-bas, mille merci à tous. Le Paris Saint-Germain, donc, dans l'émission d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain en mode champion hexagonal. Les Parisiens ont, sans surprise, gagné leur 5e Coupe de la Ligue, grâce notamment à un génial Kylian Mbappé, qui a brillé face à ses anciens camarades de jeu de Monaco. Le jeune attaquant retrouve sa spontanéité alors que l'arbitrage vidéo a muselé la joie ou la déception spontanée des joueurs et des spectateurs. Ça promet bien des frustrations en Coupe du Monde. Préparez-vous. Et puis derrière le PSG, les Olympiens restent dans le coup de la Ligue des Champions. Lyon et Marseille ont gagné, les Lyonnais grâce à Memphis Depay, les Marseillais grâce à Dimitri Payet. Mais l'OM commence à perdre ses cadres à la mauvaise heure, inquiétant sans doute. Et nous en parlerons notamment avec vous, Dominique Sebrac. Bonjour.
Bonjour Dakar, Annie, et heureux de vous retrouver, Annie.
N'est-ce pas ?
C'est un plaisir de passer mon lundi.
Soyez dû venir parce que là-bas, on vous aime beaucoup aussi,
c'est gentil.
Dominique.
On les salue tous.
Et regarde l'équipe télé aussi. Oui, et ça, on leur a dit. C'est chargé de leur dire. Salim Boumgali, DSFR Sport, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Et même ici aussi, on aime Dominique.
Vraiment. Merci,
voilà. Naïm Ognol, Eurosport, bonjour.
Ouais, salut,
c'est le jour
Annie,
de Pâques, alors. C'est un peu le jour où on est gentil avec tout le monde.
Tout entière.
À tous les auditeurs.
Vous aime tous aussi.
On s'aime.
Exactement.
Cette émission aujourd'hui, eh bien, nous la dédions à un auditeur très spécial, à quelqu'un qui nous suivait depuis la première émission en 2010, un supporter des éléphants qui, j'en suis sûre, continuera à nous écouter de son nuage. C'était Monsieur Mfa Traoré. Que la terre lui soit légère là-bas, du côté de la Côte d'Ivoire. Radio Foot, c'est parti.
Le joli 1-2 avec Draxler, Rabiot qui lance Kylian Mbappé. Kylian Mbappé l'a percé dans l'axe, magnifique. Kylian Mbappé
pénalty
stoppé irrégulièrement. Le pénalty signé par sifflé pardon par l'arbitre de la rencontre, le mondialiste Clément Turpin. Le premier duel de cette finale de la Coupe de la Ligue. Et Cavani qui marque. Le plat du pied, plein centre pour l'Uruguayen Edinson Cavani. 7 minutes de jeu ici à Bordeaux. Le PSG prend l'avantage 1-0.
La récupération, Kylian Mbappé qui repart dans une longue chevauchée.
Il a déposé Thomas Lemar, il alerte André Di Maria de l'autre côté, c'est magnifique. Di Maria qui va se présenter face à Subasic, le but. Le but, la frappe d'André Di Maria touché par Subasic, mais ça termine quand même au fond défilé, pardon, le deuxième but parisien.
Pastore la déviation avec Kylian Mbappé qui essaie d'y aller. Cavani et le troisième but du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani 3-0. Cette fois, Monaco est KO.
Le Paris Saint-Germain qui remporte la 24e Coupe de la Ligue, la 8e de son histoire, la 5e de rang pour le club de la capitale. Succès 3-0 devant près de 42 000 personnes à Bordeaux.
Si vous l'avez suivi, le match était retransmis sur RFI avec Hugo Moissonnier et Eric Mamrut. Alors le PSG, maître en son hexagone, pour la 5e fois en 5 finales et pour la 17e fois sous l'ère qatari, le Paris Saint-Germain a donc remporté un nouveau trophée, la Coupe de la Ligue, au terme d'un match disputé. C'était à Bordeaux contre l'AS Monaco. Mais le score, évidemment, est un peu sans appel. Les champions de France, comme l'an passé, eh bien, se sont imposés. Un doublé d'Edinson Cavani et donc un but de Di Maria, vous l'avez entendu, mais surtout, on a retrouvé Kylian Mbappé. En tout cas, c'est la sensation qu'on avait en suivant le match. Rapide, clairvoyant, instinctif, il a provoqué le pénalty, réalisé une passe décisive. Et Unai Emery, son entraîneur, était content.
Kylian Mbappé, il a le talent, il est jeune. Je crois qu'aujourd'hui, il a joué tout le moment pour faire le mal à l'adversaire. Il a cherché tout le moment action verticale contre lui. Et c'est vrai qu'il ne marquait pas, mais il a fait un grand match.
Il a fait un grand match, il a surtout fait mal à l'adversaire, comme il dit, et c'était ses anciens coéquipiers. Un Kylian Mbappé donc retrouvé spontané, sans l'ombre de son bro, n'est-ce pas, le fameux Neymar, avec un tel joyau dans ses rangs, le PSG ne devrait-il pas en fait s'organiser, se construire autour de sa vedette de 19 ans, plutôt que Neymar, qu'on dit parfois partant, Dominique?
C'est compliqué, parce que Neymar, il est venu chercher une lumière qu'il n'avait pas, selon lui, à Barcelone, puisqu'elle est prise par Messi. Donc il est venu chercher un ballon d'or, la lumière, les responsabilités, peut-être le capitanat dès la saison prochaine avec un nouvel entraîneur qui l'enlèvera peut-être à Thiago Silva, qui a parfois failli dans ce rôle-là. Donc c'est très compliqué d'organiser l'équipe autour d'Mbappé, parce que Neymar en prendrait ombrage et il n'est pas venu jouer le second de Mbappé. Donc non, Neymar il aime ça. Kylian Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, plus dans la fulgurance que dans la... Neymar, il va toucher 130-140 ballons dans un match. Parfois, Kylian Mbappé, ça va être plus, oui, voilà, des fulgurances, des attaques, des contre-attaques, la profondeur, des différences avec une technique qui surprend l'adversaire.
Mais vous avez eu la sensation, vous aussi, de le retrouver, c'est-à-dire oui. de retrouver quelqu'un plus léger, je dirais, comme on l'avait vu à Monaco.
Bah, l'année dernière, il était passé à côté de sa finale avec Monaco. Il était muselé par Thiago Silva, justement. Donc là, j'ai senti une espèce d'esprit de revanche, de montrer à Monaco qu'ils avaient pas bien fait de le laisser partir, voilà, parce que il y a des gens à Monaco qui disent, ah bah oui, à 180 millions d'euros, c'est bien d'avoir laissé partir un tel joueur. Non, c'est un joueur extraordinaire. Alors certes, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de le vendre, mais c'est un joueur fantastique. Et comme il y a des petites incompréhensions avec Jardim, peut-être que Vadim Vassiev aurait bien voulu le vendre aussi au Real Madrid et pas au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il avait des messages à faire passer. Il a été extraordinaire.
Naïm.
Ouais, samedi soir, il y avait un seul moyen de l'arrêter, c'était de faire faute. D'ailleurs, Raji a à peu près fait ça tout le long du match. C'est vrai qu'on a retrouvé le Mbappé de l'année dernière.
Et Glick l'a tellement bien fait que.
Oui, également. C'est vrai que bon, il a fait mal à tout le monde par sa vitesse. On a retrouvé le Mbappé de l'année dernière. Peut-être parce qu'il a simplifié son jeu, peut-être parce que je l'ai trouvé plus direct, plus dans la spontanéité, dans l'altruisme. Il n'a pas cherché à faire la star, justement.
Il n'a pas fait la passe de trop.
Voilà, il n'a pas fait la passe de trop. Il n'a pas fait la touche de trop. Moi, je l'ai trouvé très bon, excellent. J'espère le voir comme ça à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'était du grand Mbappé.
Non, on l'avait vu.
Alors, ça veut dire qu'il peut le faire, parce que parfois on lui reproche de trop garder le ballon, de trop.
Il a peut-être fait son meilleur match avec le Paris Saint-Germain cette saison, en tout cas un des meilleurs assurément. Oui.
N'oublions jamais quand même que Kylian Mbappé a finalement que 19 ans et demi. Au final, donc c'est logique.
Même pas et demi, si. Déjà
en décembre, donc.
Décembre 98, ouais. Donc le temps que l'année termine, donc c'est même pas une.
19 et 3 mois.
Totalement. Donc c'est dire quand même que ça peut arriver parfois d'avoir ces trous d'air,
bien
comme
sûr.
Tous les grands joueurs en ont eu également. Et au final, c'est très peu. On le rappelle, sa carrière, c'est quoi? C'est un an et demi. C'est deux ans de carrière, simplement, à peine, hein, même pas. Donc au final.
C'est ça,
exactement. C'est même pas deux ans.
Janvier 2017.
Donc c'est dire qu'on s'emballe, à juste titre d'ailleurs, sur un joueur. Il a le droit parfois d'être un petit peu moins bon, comme il a été ces dernières semaines. Parfois en championnat, donc là il revient à son niveau normal. Au final.
Mais d'ailleurs,
on est une pépite.
Salim, vous avez raison.
Défensif, par exemple, là, alors que c'est le reproche qu'on lui a fait en équipe
c'est
de
vrai,
France.
C'est vrai, vous avez raison.
Contre la Colombie ou la Russie, là, quand il fait des matchs comme ça, il y a personne pour lui dire. Et au fait, t'as pas défendu. Oui. Là, on oublie parce qu'il est tellement au-dessus que voilà, c'est ça qu'on voudrait qu'il fasse tout le temps pour qu'on oublie les petits péchés mignons qu'il a, par exemple, de ne jamais défendre.
Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas le faire tout le temps parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas être au top du top. C'est normal. Donc dès qu'il retombera, alors là, on va dire, ah mais regarde. Regardez quand même le repli défensif, là, il a pas réussi.
C'est le problème avec un joueur comme ça.
C'est ça.
Mais par contre, Salim, vous soulignez quelque chose, et c'est vrai, c'est-à-dire peut-être qu'on attend trop déjà de lui. Alors peut-être parce qu'il y a cette échéance aussi de la Coupe du Monde, mais c'est vrai que là, quand il a eu cette espèce de trou d'air au Paris Saint-Germain, on se disait, mais ça y est, c'est ça, dans sa phase de croissance, mais en même temps, on l'exigeait peut-être déjà trop.
Le problème, c'est qu'on en exige trop de Mbappé parce qu'il a démarré tellement fort.
Bah oui,
en
fait,
l'année dernière, en fait, avec Monaco, il portait Monaco.
Et en Ligue des Champions, notamment.
La deuxième partie de saison, en championnat également. C'est pour cette raison, entre guillemets, c'est presque de sa faute. Il est tellement fort qu'on en attend tout le temps.
Bien sûr.
Monts et merveilles.
Au retour contre le Real Madrid, tout le monde passe à travers, mais les gens disent, bah, vous avez vu la partie de Kylian Mbappé contre le Real Madrid? Bah, elle était pas bonne, mais comme Verratti n'a pas été bon, personne n'a été bon ce jour-là, mais ça va se focaliser sur lui.
Il faut dire que le public français, d'ailleurs, est un public très difficile, mais on a surtout été tellement déçus par ceux qu'on annonçait comme étant des génies, des phénomènes du foot sur les dernières années. On attend Pogba, on a attendu longtemps Martial, on a attendu Coman, on a attendu un tel et un tel. Ça n'a jamais jamais vraiment matché. On peut pas dire qu'on a un phénomène comme le Portugal à Ronaldo, comme l'Argentine à Messi ou autre. Donc on a peut-être placé beaucoup trop d'espoir en Kylian Mbappé, mais comme le disait Salim, c'est vrai. On attendait beaucoup, mais il a montré beaucoup plus qu'on était en droit d'attendre pour un garçon de son âge.
Ce qui est vrai, c'est que la France ne gagne des compétitions que quand elle a un génie avec elle. C'est-à-dire qu'en 84, il y a Platini. En 98-2000, il y a Zidane. Ouais. Et donc, on se dit, à chaque fois, on essaie de voir si Griezmann a gagné l'Euro 2016. Bon, bah non. Donc là, on se dit, bon, la Coupe du Monde 2018, peut-être que c'est lui le nouveau génie.
Mais là, avec Platini et Zidane, de l'autre côté, vous avez des joueurs qui étaient déjà confirmés. Mbappé est évidemment confirmé, mais avec un gros bagage et une grosse expérience. Avant cela, Mbappé, on l'a dit, c'est 1 an et 4 mois d'expérience. C'est là où le bât blesse, entre guillemets, peut-être pour Mbappé.
On a l'impression qu'il apprend vite quand même.
Aussi.
En tout cas, il apprend dans l'ombre de son bro, donc de son brother, de son frère. Et on l'a vu grâce aux réseaux sociaux, Dominique. Il l'a suivi ce match quand même, Neymar.
Oui, visiblement, il a félicité tout le monde en français dans le texte.
Ah, c'est beau.
Ah, c'est magnifique. Beau, hein. Il a déjà appris quelques mots.
Ah, bravo.
Peut-être qu'il y a une traduction immédiate non, sur les.
Ah, peut-être qu'avec les smartphones, aujourd'hui, on fait des belles choses.
Hein, n'est-ce pas? En tout cas, il a félicité aussi son pote, Daniel Alves, parce que c'est vrai que Daniel Alves, même si on le trouve moins bon dans les rangs du PSG, c'est quand même son 36e trophée.
Il a plus de titres que le PSG. C'est vous dire un petit peu, parfois on dit là, où est l'institution au Paris Saint-Germain. Voilà un joueur qui, lui tout seul, a plus de trophées que toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc vous voyez bien que c'est un club trop jeune encore pour pouvoir en imposer aux joueurs.
Oui. En tout cas, ce qu'il y avait d'amusant aussi, c'est ce qu'il a posté comme image, parce qu'on voit effectivement son écran géant avec des palmiers derrière, un beau jardin. L'extrait du match qu'il a posté, Naïm, c'est le pénalty de Cavani, bien sûr.
Oui, le pénalty de Cavani. Non, mais c'est vrai que Daniel
Alves... Non, mais c'est amusant le clin
la
d'œil.
La communication.
De si loin qu'il donne sur...
Ça prouve quand même qu'ils sont, attentifs. Oui, ils ont de l'humour, mais ils sont quand même attentifs à ce qui se dit et aux critiques qui tournent autour de l'effectif.
Ouais,
je pense qu'il faut aussi le prendre comme ça. Il n'a pas été épargné par les critiques, Daniel Alves, ces derniers temps.
Non, mais, c'est Neymar là, qui avait posté Neymar, ça. C'est Neymar qui a posté ça. Et on pense, évidemment...
Au pénalty gate et compagnie.
Voilà, exactement. Et il n'avait pas trop apprécié. En tout cas, cette finale, sans doute, nous a-t-elle préparé au spectacle que nous aurons en Coupe du Monde sur tous les matchs cette fois, et pas seulement sur une finale ou les derniers matchs de la compétition, à savoir l'arbitrage vidéo. Je sais que vous adorez ça, Dominique. Alors, on est sûr de toute façon qu'il y en aura. On est malheureusement peut-être sûr que c'est l'avenir, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des sensations de frustration qui se répètent. L'arbitre, on va l'entendre, il y a eu recours 2 fois pendant ce match à l'arbitrage vidéo pour le pénalty en faveur du PSG. Alors là, bon, il n'a pas trop perdu de temps, mais ça a quand même pris 2 minutes, le temps qu'il écoute ses copains, après qu'il aille voir lui-même l'écran parce qu'il voulait s'en rendre compte et il a changé d'avis 3 fois quand même. Et puis après, il y a eu le but inscrit par Falcao, c'était à la 36e minute de jeu. Écoutons et retrouvons nos amis Hugo Moissonnier et surtout Eric Mamrut.
João Moutinho qui continue, Tielemans sur le côté droit, le centre, la tête, premier poteau,
et le but
monégasque, il s'est arraché,
Radamel Falcao,
Monaco revient à 2-1.
Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer.
Le but est refusé. Après assistance vidéo.
Décidément.
Mais
la vidéo se sera illustrée dans cette première période.
Ah oui, non, mais c'est
incroyable. La finale de la Coupe de la Ligue.
Alors qu'est-ce qu'il... sans donner d'explication, c'est pas pourquoi. Et en tout cas, effectivement, on voyait que l'arbitre Clément Turpin tardait à donner le coup d'envoi après ce but de Falcao. Il avait demandé, mais ça, il faut qu'il le signifie un petit peu plus tôt, qu'effectivement, il fait appel à la vidéo. Et ce n'est qu'à la conclusion, en fait, du tout le cheminement qui fait le signe d'un écran télé. Et qu'à la suite de ça, il prend une décision qui est l'annulation de ce but. On en est donc toujours à 2-0.
C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a été en notre faveur. Donc on va dire qu'on est content. Après, on sait que la vidéo, c'est assez compliqué. Ça refroidit les joueurs. Tout le monde est dans l'attente. Donc c'est un petit peu relou, on va dire, entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui, ça nous a souri. Et on en a bien profité.
C'est relou, nous dit Prenel Kimpembe.
C'est un jeune.
C'est un jeune.
Nous aussi, Libro.
Alors, et du coup, nous, on le dit aussi. En tout cas, Kimpembe, est-ce qu'il ne dit pas, Salim, tout haut, ce que finalement, les spectateurs, en tout cas dans le stade ou devant leur télé, pensent tout bas? Et est-ce surtout que la vidéo ne gâche pas le spectacle du football? Est-ce qu'il n'est pas menacé?
Alors, là, on évoquait cela en studio en écoutant cette séquence. Effectivement, il y a une frustration qui entre en jeu. Effectivement, il y a une attente. Alors que
les joueurs, vous avez vu, ils sont déjà dans le rond central. Ouais. Les Parisiens ont posé la balle au milieu. Mais on va repartir.
C'est ça. On, on voit effectivement l'action, on sait surtout qu'il y a pénalty hein, sur la première action, on le voit, tout le monde voit la faute.
Ah oui,
après, le problème, c'est qu'il y a quand même l'arbitre assistant qui lève le drapeau. Donc, effectivement, ça peut créer effectivement un doute dans son esprit. Après, là, salons quand même la décision d'avoir pris effectivement la vidéo pour le coup, puisque lui, au début, il signale le hors-jeu et au final demande l'arbitrage vidéo et se corrige. Donc, oui, ça peut apporter aussi des correctifs quand même.
La vidéo sur son utilisation, sur le fond du problème, c'est bien qu'il y ait une vidéo. Moi, j'ai toujours été pour, je vais pas dire le contraire aujourd'hui. Après, en fait, il n'y a pas de protocole d'utilisation. C'est qu'on n'a pas formé les arbitres à l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a mis l'outil technique à disposition des arbitres.
On leur donne 4 cas où ils peuvent faire appel,
mais il n'y a pas de protocole d'utilisation. Est-ce que c'est l'adjoint qui appelle le central ou l'inverse? Comment est-ce que ça se passe? Combien de temps? Donc, l'utilisation, c'est un chantier à progresser. Et on est au balbutiement de la vidéo. On peut pas, c'est un procès malhonnête de dire, ouais, de toute façon, ça gâche le spectacle. Oui, aujourd'hui, c'est mal utilisé, on perd du temps. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça sera fait en quelques secondes, on n'en parlera plus. Donc, le procès est malhonnête. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur la communication avec les spectateurs dans le stade, il y a des choses à revoir. Les gens ne comprennent pas. Il y a 3 minutes d'écart entre la décision et puis.
Puis là, ça change tout à fait le match, d'ailleurs.
Oui, bah
parce
oui,
que
ça,
si on
ça
était à 2-1
joie,
en milieu de première mi-temps, oui, bon, ça pouvait alors, changer.
Ça change le match.
La vidéo n'a pas faussé le résultat.
Oui.
A priori.
Voilà. Parce qu'en l'occurrence, le hors-jeu de Falcao.
L'enjeu de Falcao fait encore débat, non?
Il y avait vraiment pénalty.
Pénalty, oui.
Ça, donc il y a 1-0.
Le deuxième but,
il est entaché dans rien du tout. Donc il y a 2-0. Le but de Falcao qui aurait fait 2-1 à la 37e minute.
C'est litigieux.
Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une main de Falcao? Est-ce qu'il y a hors-jeu? Pas hors-jeu? Moi, dans l'esprit, j'aurais accordé le but. Parce que c'était le moment où Monaco était bien dans le match. Donc dans l'esprit, pour aller à 10 cm, j'aurais accordé le but. Non, il manque la pédagogie aux gens. Les gens sont dans le stade, comme moi, j'étais avec Eric et Hugo, et je comprenais pas ce qui se passe, parce que tout le monde voit qu'il y a pénalty. Je vois Monsieur Turpin siffler pénalty, mais là, son arbitre qui a fait une erreur, parce qu'il a sifflé hors-jeu, de toute façon, qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, on s'en fout, puisque d'abord, il y a eu pénalty. Mm-hmm. Donc après, si Rabiot est hors-jeu, c'est pas grave, puisque là, d'abord, il y a eu une faute sur un joueur. Donc ça, c'est pas expliqué. Monsieur Turpin aurait dû venir à la fin du match nous expliquer ses décisions, parce que Cavani a fait une main, mais il a pas utilisé la vidéo.
Ouais.
Donc on aimerait savoir pourquoi. Là, peut-être qu'il est sûr de lui. Quand il est sûr de lui, il n'a pas forcément à utiliser la vidéo, mais qu'il vienne juste nous expliquer. J'ai bien vu que la main de Cavani n'était pas volontaire. J'ai décidé très vite de ne pas siffler penalty. Qu'il vienne expliquer, parce que Falcao a dit que c'était une honte pour le football français. Voilà, ça a créé des polémiques, alors que l'arbitrage vidéo est censé enlever des polémiques, puisque il est censé rendre le football un peu plus juste. Donc
un peu
là,
plus, comme vous dites.
Voilà. Donc là, c'est des balbutiements, c'est les débuts. On peut dire que c'est le protocole, comme dit Naïm, n'est pas bon.
Juste sur cet arbitrage vidéo, par rapport au protocole, il y a une séquence aussi, alors par rapport au rugby, on le rappelle au rugby, donc parfois il y a des séquences qui sont très longues, on l'a vu notamment ce week-end en Coupe d'Europe, mais ce n'est pas l'arbitre central qui prend la décision, c'est l'arbitre qui est dans son car régie avec ses écrans de contrôle, c'est lui qui prend la décision. Là, en gros, en foot...
L'arbitre central peut aussi la prendre, hein. Il peut demander les images sur le grand écran.
Oui, vous avez raison.
Il y a une différence, c'est que il communique au commentateur du match ses décisions. Le commentateur du match entend les décisions des arbitres, ce qui n'est pas le cas en football, parce qu'on ne veut pas micro ouvert pour les arbitres, parce qu'on a peur qu'on entende que les arbitres parfois insultent les joueurs.
Oui, mais en tout cas, par rapport à la perte de temps qu'on évoquait il y a quelques instants, là vous avez l'arbitre central potentiellement qui va demander à l'arbitre assistant, en tout cas celui qui est en régie, qui va commencer à regarder, et lui ensuite l'arbitre central doit aller regarder de nouveau. Donc vous avez une perte de temps. Pourquoi l'arbitre qui est en car régie n'aurait pas la légitimité, c'est un arbitre, de
bien
donner
sûr
la décision et de dire à l'arbitre central, Clément Turpin en l'occurrence, il y a faute ou il n'y a pas faute?
Par exemple, Annie promet le penalty, donc entre le moment où il y a la faute sur Mbappé et le moment où Cavani transforme le penalty, il y a 3 minutes et 36 secondes. Ça, c'est coupe sur le penalty. L'arbitre va accorder 2 minutes de temps additionnel sur la première période. Or, il ne s'est pas passé que le penalty, il s'est passé d'autres choses. Il y a eu des pertes de temps parce que les joueurs ont.
Donc ça aurait dû être 4
minutes.
Et le but annulé.
De Falcao, tout ça. Donc déjà, oui, on n'a même pas respecté l'équité chronologique
du
temps de jeu sur la première période.
Oui. Est-ce que justement ça dessert aussi l'arbitrage ou peut-être l'arbitre, parce que Clément Turpin est le seul arbitre français qui va représenter la France en Coupe du Monde, Naïm?
Bah oui, ça dessert l'utilisation de la vidéo dans le foot français. puis après oui, ça lui donne pas une crédibilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on espère que d'ici la Coupe du Monde, les arbitres seront réunis avec un protocole d'utilisation, une formation, qu'on saura qui communique à qui et dans quelles circonstances, que ce soit un petit peu plus clair, que la FIFA montre l'exemple.
Et clair pour nous, voilà. Nous commentateurs,
c'est
aussi
la Coupe
observateurs.
Du Monde, des révolutions. Il y aura un quatrième changement en cas de prolongation dans les matchs. Il va se passer beaucoup de choses. Cette Coupe du Monde va faire date sûrement.
Espérons.
Oui.
En tout cas, pour ce qui est de Unai Emery, alors beaucoup de questions ont été
de l'autre
posées.
À la préférée,
ah oui.
Beaucoup de questions ont été posées.
Chacun de ces derniers instants.
Lui aussi.
Ah oui.
Lui aussi, il l'a déclaré. Il a dit je profite de chaque instant. Alors justement, Dominique, chaque instant, ça veut dire qu'il part.
Ah oui.
Hein, il est en fin de contrat.
Ah oui, oui.
Parce qu'en fait,
il a été confirmé par Nasser Al-Khelaïfi. Donc vous savez qu'il part. Là, c'est sûr et certain. Il est venu en zone mixte dire c'est notre entraîneur et notre entraîneur s'appelle Unai Emery. Donc ça c'est le.
Il n'y a rien de tel. Bon, parce qu'en fait, il avait 2 ans plus 1 an reconductible s'il avait remporté la Ligue des Champions.
S'il allait en finale.
Ou s'il allait en finale. Bon, donc.
C'est déjà pas mal.
Voilà, oui, mais malheureusement, ça lui est pas arrivé.
Non, lui, c'est 8e, lui.
Alors, qui pour lui succéder, oui, comme beaucoup, qui pour lui succéder, Le Parisien, c'est-à-dire votre journal, c'est-à-dire vous, sans doute, affirme que Thomas Tuchel, on a appris à le dire grâce à David Lortolari, est en pole position, c'est-à-dire que ce serait lui qui succéderait, alors ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui est libre, qui parle français, et donc qui viendrait prendre la suite, c'est lui et c'est le bon profil.
Alors c'est lui à 95%, c'est lui. Hein, il est libre. Il avait le choix entre peut-être Arsenal, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Il aurait choisi le Paris Saint-Germain après un choix autoritaire de l'émir du Qatar, hein, qui aurait dit voilà, c'est comme ça, c'est lui.
Bah, c'est lui qui fait souvent ou défait les entraîneurs.
Voilà, hein. Il avait demandé à ce que Laurent Blanc parte.
Faut dire qu'il connaît bien le foot. Hein.
Bah, après, il le connaît ni plus ni moins que Nasser. Hein. Si c'est Nasser qui prend la décision, je vois pas pourquoi ça serait. Il le connaît
mieux.
Oui, mais
enfin, Nasser, il est au moins sur place, quoi.
Oui, mais bon. De toute façon, à partir du moment où le club, les fonds sont qatariens, le club, il appartient à Doha, donc c'est pas scandaleux que le club se...
Donc, pour être clair, Dominique, là, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas son mot à dire, en fait, dans ces cas-là.
Bah, il a le droit de le valider.
Bah, c'est-à-dire qu'il
a le droit de dire, c'est bien,
aussi, lui,
monsieur le prince, c'est bien ce que vous avez
c'est
fait.
Ça. Ouais.
Donc, voilà. Après, Tuchel, il vient d'un club plus gros que Séville pour Emery. Mais il a moins de palmarès qu'Emery. C'est-à-dire qu'il a même pas 3 Ligues Europa. Il a une Coupe d'Allemagne. Il a pu en avoir une deuxième, il l'a perdu au tir au but. Il passe pour un psychorigide. Moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait qu'on mette Neymar dans les meilleures conditions. Un psychorigide, c'est pas forcément ce qu'il faut. Après, Dortmund avec lui a très très bien joué. Et on a vu des matchs fantastiques. Il est jeune, il est fan de Guardiola. La fameuse histoire dans le restaurant où les serveurs peuvent pas abonner les plats tellement ils sont en train de faire des batailles tactiques avec les salières et le poivrier. Donc, je suis un peu circonspect en fait. Je dis pas qu'il peut pas réussir parce que évidemment que Thomas Tuchel c'est un bon entraîneur, il peut très bien réussir. C'est pas ce qu'on attendait. On attendait un entraîneur qui en impose aux joueurs, qui a un CV énorme.
Oh bon bah. On en parlera, Naïm, et on fera un débat le jour où il sera officiellement nommé.
À moins que l'émir décide d'un autre nom. Peut-être.
Il y a encore le temps de changer.
Exactement.
Hein. C'est rare de choisir un entraîneur en avril. Hein.
Allez, des fois, ça leur arrive, en tout cas, de s'en séparer dans l'esprit. Ça leur arrive assez tôt dans la saison. On part, pour continuer, disons. On va continuer sur la Ligue 1. Dans ce Radio Foot, nous sommes toujours donc avec Dominique Sévrac, Naïm Moniol et Salim Baumgali. La Ligue 1, le PSG, bon, tranquillement hors d'atteinte. Hein, derrière, ils ne sont pas encore sacrés champions de France. Mais derrière eux, par contre, la bataille continue. Peut-être plus trop pour la deuxième place, puisque Monaco semble très bien accroché à sa place de dauphin. Par contre, eh bien, les Olympiens, pour eux, le suspense demeure. Les deux équipes ont gagné, les Lyonnais, en dépit des absences de poids dans leur rang. Nabil Fekir, hein, depuis plusieurs semaines, et surtout Mariano Diaz. Ils ont su gagner grâce à Memphis Depay, titularisé pour la première fois dans un match de Ligue 1, l'international des Pays-Bas, qui a inscrit un doublé et qui a ravi son président Jean-Michel Aulas.
C'est un garçon qui a les défauts de ses qualités, mais c'est un garçon qui a un talent fou et qui est véritablement un optimiste quand les choses vont bien. Je l'ai vu avec le sourire et quand Memphis a le sourire, c'est qu'en général l'équipe a bien joué et qu'il a été à son meilleur niveau. Donc très bon souvenir et très bonne vision d'un d'un Memphis qui est un joueur tout à fait attachant et exceptionnel.
Non, oh, il a le sourire, c'est mignon.
Vous êtes ému, ah ouais, Salim, ouais, par les propos de
surtout
Jean-Michel.
Surtout quand Jean-Michel Aulas se dit, vraiment.
Bah, il le dit bien.
Ah ouais.
Alors, Memphis Depay, est-ce que Bruno Genesio doit lui faire plus confiance? Il a déjà marqué 12 buts en Ligue 1. On se souvient notamment de son but contre le Paris Saint-Germain qui fait gagner les Lyonnais.
Contre Marseille.
Contre Marseille aussi. Donc, il est souvent...
c'est l'homme des grands matchs.
Très important. Naïm, merci beaucoup.
Je plaisante.
Non, mais alors, concernant Memphis Depay, il faut rappeler que parmi tous les buts qu'il a marqués, il les a surtout marqués en tant que remplaçant, quand même, hein,
oui.
La plupart du temps, rarement titulaire. En tout cas, lorsqu'il est titulaire, il ne marque pas ou très peu. Donc, c'est vrai que ça paraissait surprenant de le mettre titulaire. En plus, on sait que Lyon, cette saison, face aux petits, en tout cas, où les équipes de deuxième partie tableau est moindre. Donc, hier, on pouvait se poser des questions. Après, bon, le cas Toulouse, on le mettra de côté, puisque je pense que Toulouse n'était pas venu pour gagner, même pas faire Machul. C'était bizarre. Bref, mais Depay, c'est vrai qu'il a eu toutes ses possibilités. Après, encore une fois, malheureusement pour Depay, ce n'était que Toulouse en face. C'est bien qu'il ait marqué, même deux fois d'ailleurs. Après, le mettre titulaire, oui, il y a d'autres joueurs qui ont l'air moindres. Bertrand Traoré fait partie de ces joueurs qui est parfois irrégulier, parfois d'un talent incroyable et par moments qui échappe dans une rencontre, alors que Memphis Depay semble lui être un petit peu plus régulier, on va dire.
Un petit peu plus.
On peut pas reprocher à Genesio un temps d'avoir mis Memphis Depay sur le banc, parce qu'il en avait vraiment besoin. Dans le jeu, il apportait rien. Ça a pas, c'est un joueur de fulgurance qu'à 20, 25, 30 minutes où il va être très bon. Et puis, sur une heure, il disparaît complètement. C'est quand même pas ce qu'on attend d'un garçon qui arrive de Manchester United avec un certain statut, un salaire. Donc, voilà. Moi, je comprends que Genesio, à un moment donné, l'ait mis sur le banc. Il semble bien en ce moment. Tant mieux, pourvu que ça dure, mais le problème avec lui, c'est que ça dure vraiment jamais, puis il faut pas oublier qu'avec Memphis, il y a eu des vrais problèmes d'individualisme, et que pendant un temps, quand Genesio, quand Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui lui tresse des lauriers, parlait d'individualisme des joueurs qui n'avaient pas de comportement professionnel, Depay était visé. Donc c'est toujours très délicat. Depay, en forme, il serait titulaire tous les jours, le problème, c'est qu'il est pas toujours en forme, et pas toujours régulier, même pas toujours altruiste, donc voilà, c'est toujours très compliqué avec ce genre de joueur.
Non, mais c'est bon, il est en forme, il a le sourire.
Mais Dominique, c'est en tout cas l'homme qui, en ce moment, est bien utile à cette équipe de Lyon, parce que Nabil Fekir est absent et pour l'instant, on ne sait pas trop combien de temps. Mariano Diaz qui inscrit des buts quand il est là, il était pas non plus, il était blessé, donc il ne pouvait pas jouer. Memphis Depay, c'est quand même ce qui peut sauver peut-être la saison de l'OL.
Ben c'est lui qui leur permet d'encore croire à la Ligue des Champions, puisque il marque le but à la dernière minute lors de l'Olympico juste avant la trêve internationale à Marseille. Moi, je salue cette relation Genesio Depay parce qu'elle est compliquée et c'est lui qui voulait le faire venir au mercato. Donc il y a un an et demi, il a réussi, c'était une dépense importante à l'époque, 16 millions d'euros pour Lyon, et puis quand il n'a pas été bon, Genesio n'a pas hésité à le mettre sur le banc, à lui montrer que ben, des joueurs comme Aouar pouvaient donner plus, montrer plus, et donc et aujourd'hui il en a besoin, et Depay lui rend, donc on voit bien que cette relation elle marche, et Genesio qui est souvent très critiqué, notamment localement, moi m'épate, il est encore qualifié pour être en Ligue des Champions la saison prochaine. Il reste combien, 7 journées. Et Lyon n'est qu'à 2 points de Marseille.
Et Lyon ne fait plus l'Europe par rapport à Marseille.
Voilà, donc moi je pense que Lyon...
Il y a 2 points d'écart. Hein,
parce que tout le monde croit que le classement est figé, que Monaco sera 2e, Marseille 3e, Lyon 4e.
Non, nous on croit pas.
Lyon peut encore gagner la 3e place.
Faut pas oublier un truc, c'est que en l'absence de Fekir, si vous prenez hier ne serait-ce que le milieu de terrain, Touzard, Ndombele, Aouar, c'est 19-20 ans de moyenne d'âge. Un garçon comme Depay, qui n'en a pas 30, mais qui a quand même de l'expérience, qui est à Manchester United, qui est international, ça aide aussi à encadrer. C'est qu'au-delà de
voyait,
tout ce qui est...
Par exemple, voilà. Aouar, il est très doué, mais il a raté des choses.
Il a raté plein de choses. Et puis le petit Maolida qui est rentré, qui est certainement, qui a beaucoup de talent, qui sera très bon dans le futur, a aussi tenté des choses qu'il n'a pas réussi. Donc, avoir un mec comme ça, qui a un petit peu bourlingué, fait des Coupes d'Europe, ça peut aussi servir. On est dans la dernière ligne droite de la saison.
Oui. Bon ben voilà pour ce qui est de Lyon. Lyon qui donc n'a pas perdu son match face à Toulouse se retrouve à 2 points derrière Marseille, 4e toujours et loin devant les 5e, hein, parce que Montpellier n'a que 45 points, c'est-à-dire qu'ils sont à 15 points derrière. En tout cas, l'OM tient le rythme, en tout cas pour l'instant, en championnat. Ils sont toujours sur la 3e marche du podium. Ils ont obtenu une victoire, c'était à Dijon, 3-1, grâce notamment eh bien, à un très brillant Dimitri Payet. Oui, Salim.
Non mais j'allais rebondir effectivement sur vos propos. C'est vrai que Marseille Marseille a été intéressant face à Dijon, surtout lorsque Dijon a égalisé, on s'est dit, oh là, ça va craquer, et effectivement, cette équipe ne va pas réussir à passer le cut, et finalement, Lyon va peut-être récupérer donc cette troisième place, et finalement, il y a eu cette réaction avec notamment Payet qui en 2018, alors on l'a suffisamment, à juste titre, je pense, critiqué en 2017, puisqu'il était totalement absent
oui.
Mais là, depuis le début de l'année 2018, il est juste épatant, il est revenu, j'ai presque envie de dire, internationalisable.
Oui, c'est ce qu'il aimerait sans doute. Valère Germain aussi a marqué dans ce match et il confirme son rôle. Mais l'OM, on le répète assez souvent ici, manque de banc, donc manque de remplaçants au niveau en tout cas. Et Rudy Garcia, eh bien, a de quoi s'inquiéter depuis ce samedi soir à Dijon, puisque lors du 50e match de la saison quand même de ces Marseillais, plusieurs de ces cadres sont sortis sur blessure. Une mauvaise soirée en Bourgogne pour Rudy Garcia qui compte ses blessés.
Mais on a 2-3 joueurs ouais, qui sont en souffrance. Steph qui a dû sortir sur un jeu long et qui souffre du quadriceps. Alors on verra. Pour Adil, c'est un problème musculaire au mollet. Donc on espère que ce soit pas méchant non plus, qu'il se soit arrêté à temps. Bon, on pensait tous sur le banc que c'est Rolando qui sortirait. Parce qu'à la mi-temps, déjà, il nous avait alerté d'un problème de tendon d'Achille. Et puis finalement, il a été courageux. Il a pu aller jusqu'au bout. Voilà. C'est les problèmes du soir.
Oh, ça va être terrible pour eux.
Oui, alors c'est terrible puisque Adil Rami, bon alors il a une déchirure au mollet mais ça devrait prendre 10 à 15 jours. Steve Mandanda, c'est plus grave, déchirure à la cuisse, 4 à 6 semaines d'absence. Alors ça s'ajoute à une infirmerie.
Il venait sur Ferrel il y a pas longtemps parce qu'il était revenu pour le deuxième classico.
Il revenait à peine.
La Coupe de France. Donc quand vous vous blessez à peu près au même endroit 2 fois de suite.
Ouais, c'est pas très bon signe. Bon, on pense à Fekir aussi, c'est pas très bon signe. L'infirmerie de la Commanderie en tout cas comptait déjà Florian Thauvin, Hiroki Sakai et plus ou moins Rolando, parce qu'il le dit lui-même, Rudy Garcia, bon, il l'a utilisé quand même. Et en tout cas, ils ont un match important à Leipzig, en Ligue Europa, ça sera jeudi soir. Et puis, l'OM qui, évidemment, prétend toujours à cette troisième place. Est-ce que l'OM touche ses limites physiques ?
Je vais juste prendre l'exemple d'un joueur que vous avez évoqué dans votre liste, Steve Mandanda. C'est-à-dire, peut-être le meilleur joueur de cette équipe avec Florian Thauvin.
Ah oui, il y a des matchs où c'est lui le meilleur Marseillais.
Hein. Exactement. Il est absent 4 à 6 semaines, donc vous l'avez dit. Yoann Pelé va le remplacer. Vous avez évoqué ce banc qui est parfois limite, et on l'a vu face à Dijon. Il y avait aussi un banc qui restait malgré tout très limite. Honnêtement, il y a quelques semaines, je disais sur cette antenne, Marseille va tenir et Marseille va finir 3e. Ben, j'y crois plus du tout, en fait. Cette absence est si importante pour l'OM. C'est le capitaine, en plus.
Enfin, oui, même Adil Rami aussi en défense, qui est un personnage
Mandanda
important.
Surtout. Mandanda, mm-hmm. c'est une perte invraisemblable. C'est le meilleur joueur de chaque équipe que vous retirez. Ben, ça devient difficile. Ben, là, c'est le meilleur joueur de Marseille.
Et là, c'est quasiment le meilleur joueur de chaque ligne. Hein, parce que Mandanda absent, Rami absent, Thauvin absent. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en gros, si tu perds Gustavo, t'as plus personne. Quoi. Je caricature, mais à peine. Et c'est terrible. C'est terrible pour Marseille parce que on l'a encore vu contre Dijon. Souvent, Marseille a fait cette saison la différence à l'abnégation, au courage, au mental, plus qu'avec un certain jeu. Et dans ces valeurs d'abnégation, de mental, bah, il y a Steve Mandanda qui est capitaine inverse du Golioris. Hein. C'est un leader, c'est un type qui crie, qui n'hésite pas à se faire entendre, à se faire respecter, à montrer qu'il a beaucoup de charisme. Et pour eux, c'est terrible parce qu'en plus, d'un point de vue du jeu, il y a un vrai écart entre Mandanda et Pelé. Avec tout le respect que j'ai pour Yoann Pelé, Mandanda, c'est quand même 3 classes au-dessus.
Du projet un peu light de Franck McCourt qui veut mettre 200 millions d'euros sur je ne sais pas combien d'années, mais qu'elle a déjà dépensé 120, il s'est surtout attaché à faire un 11 et pas tellement un groupe. Donc quand vous avez plus Rami, vous partez sur Abdennour par exemple, qui fait pas une grande saison, qui est plus que l'ombre du joueur qu'on a connu à Monaco ou au début à Valence. Donc là maintenant Abdennour c'est difficile, c'est sûrement lui qui va jouer en Coupe d'Europe. Est-ce qu'il faut pas prendre une décision radicale, j'aime pas dire ça, mais ne pas jouer la Coupe d'Europe, la jouer mais en mettant vraiment une équipe très bis, ce qui fait que vous gardez vos meilleurs joueurs pour le match du dimanche en championnat.
Pour garder cette place de Ligue des Champions.
Parce que la Ligue des Champions, elle est vitale dans le projet, le OM Project, je sais pas quoi là.
Champions
Project. Donc, s'il joue pas la Ligue des Champions, McCourt, c'est une épreuve qui vous donne un ticket d'entrée à 30 millions d'euros. Donc, vous pouvez vivre un petit peu. Si vous n'êtes qu'en Ligue Europa une deuxième année de suite, vous retrouvez pas vos sous. Donc, ça va être un choix cornélien pour l'ami Rudy Garcia. Qui là n'aura peut-être pas le choix qu'en fait.
Oui, c'est peut-être la direction qui lui donnera des directives.
Pour le coup, il l'avait remplacé par Sertic qui a quasiment pas joué de la saison. Ou alors, tu remets le petit Camara qui a un match de Ligue 1 dans les jambes, dans l'axe. Donc oui,
Mais il y a aussi les latéraux, mais il y a aussi Thauvin. Voilà, donc ça fait beaucoup. Quoi.
Ça fait beaucoup, beaucoup.
Ouais, compliqué beaucoup cette fin de saison pour Marseille. Et on suivra ça donc les prochaines journées de championnat et aussi jeudi donc en Ligue Europa. C'est maintenant qu'on s'éloigne un peu de la France. On prend le bateau et on va du côté de l'Angleterre. En première ligue, aucun suspense là de ce côté-là.
Vous prenez le bateau pour aller en Angleterre, il y a l'Eurostar, si ça va plus vite.
C'est plus sympa en bateau, ça l'est bien.
Oui, c'est vrai.
Ça fait romantique. Comme dans les chansons
d'Alain.
De...
Hein. Oui, c'est
les croisières d'Alain. Exactement.
Les chansons d'Alain Souchon, vous savez. Ah là, oui, quand oui, on prend ça... le steamer.
Sortez un peu du smartphone et tout ça. Retrouvez un peu l'ancien temps. On se pose. Non, mais on se pose, on se prend la main. Salut. On se regarde dans les yeux.
Salut, Mili va plus souvent, je pense, en plus. Alors, du coup, il prend l'Eurostar. En tout cas, aucun suspense, je vous regardais, Salim, parce que le futur vainqueur de cette saison, on le connaît déjà, n'est-ce pas?
Hein,
on a tous le nom sur les lèvres. Exactement. Les Citizens, surtout après leur victoire ce week-end, ils ont gagné 3-1 à Everton. Et l'équipe de Pep Guardiola, eh bien, pourrait bien être sacrée championne d'Angleterre samedi. Alors en plus, c'est l'événement sur sa pelouse et face aux frères ennemis, c'est-à-dire à Manchester United. Alors, Guardiola contre Mourinho, on l'a déjà vu ailleurs. On va le rejouer, mais sous la pluie peut-être, ou en tout cas sous les cieux anglais. Et Pep Guardiola, lui, pour l'instant, il ne veut pas y penser parce qu'il a un autre match dans la tête.
Je peux comprendre l'enthousiasme de nos supporters à l'idée de remporter le titre à la maison face à Manchester United. Moi aussi, je veux le gagner, ce titre. Mais avant cela, on a un match très important face à Liverpool en Ligue des Champions. Alors désolé, mais comme manager, je dois faire preuve de responsabilité. Et ce quart de finale de mercredi occupe tout mon esprit. Is going to
occupy it all on my head. Évidemment, puisqu'il y a d'abord cette Ligue des Champions et qu'on le sait, Liverpool, ça avait été le caillou dans la chaussure de cette saison. C'est la seule défaite de Manchester City en championnat.
Une défaite 4-3 pour City sur la pelouse de Liverpool. Et c'est vrai que là, il y a 15 jours assez énormes quand même pour cette formation de City. Donc il y a eu cette rencontre à Everton avec cette belle victoire en plus, avec 3 buts qui ont été marqués rapidement pour cette équipe de City.
Sané, Jesus et Sterling.
Exactement, vous avez cette rencontre face à Liverpool, ensuite United, ensuite Liverpool, ensuite Tottenham. Alors vous allez me dire, le titre sera peut-être remporté dès la semaine prochaine, mais malgré tout, aller se déplacer à Tottenham au relais de ce nouveau titre, ben vous n'avez pas envie de vous faire battre par cette équipe de Tottenham. Donc oui, vous avez 15 jours
qui
sont effectivement importants tout de même pour cette formation. Mais vous avez évoqué le côté championnat, on le voit depuis plusieurs semaines, hein, et je ne vais pas vous mentir, à SFR Sport, on se disait déjà, il faut qu'on se garde ce week-end du 7-8 avril, parce que le titre, il va jouer là, le City va gagner face à United, et effectivement, tout était dessiné, Guardiola face à Mourinho, United face à City, enfin tout est parfait, j'ai envie de dire.
C'est vous qui avez tout organisé en fait.
Exactement, c'est ça, totalement.
Naïm.
Bah oui, c'est tout à fait. Salim a à peu près tout résumé. Il y a aussi la victoire du club qui dépense bien contre le club qui dépense mal, parce que si vous regardez les investissements de United l'été dernier, les voir à 16 points derrière City, même si City fait une saison d'extraterrestre et que dans une saison normale 66 points,
c'est ça, 68.
On serait sur à peu près un rythme de champion. Ils ont été littéralement surclassés et moi je suis content parce que on a vu du beau football. La première saison de Guardiola était moyenne. On a dit il est pas fait pour l'Angleterre, il s'est trompé, il va découvrir ce que c'est machin. Bah il a fait fermer quelques bouches, il a fait des transferts, pas mal de records, il y a une équipe qui joue bien. Et puis aussi il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que pour la première fois dans son histoire, City va intégrer le lot des équipes qui jouent championnat Ligue des Champions. Quasiment jusqu'au bout. Jusqu'à présent, c'était l'apanage des Espagnols, soit de City, soit de Chelsea les années précédentes en Angleterre. Là, City franchit un cap grâce à Guardiola.
Mmh. Obligé de franchir ce cap. Le match se jouera donc dans le stade de Manchester City. Au match aller, Manchester City s'était imposé 2-1 à Old Trafford.
Milk Gate.
Oui.
Non, c'était balancé du lait à la fin du match.
Oui, c'était après dans le vestiaire, rappelez-vous.
C'est vrai.
Effectivement, la fameuse échange assez houleux entre Ederson et Mourinho.
Échange, oui.
Avec du lait qui avait été lancé, puis peut-être des échanges de coups de poing. On n'a jamais vraiment su. En tout cas, la première ligue n'avait
secret
pas sanctionné en l'occurrence.
Ne lâchons pas les produits laitiers, c'est quand même un peu dommage.
Mais en tout cas, Dominique, est-ce que ça donne finalement les Citizens favoris face à l'équipe de Mourinho?
Ah oui, oui, parce que c'est l'équipe, c'est le club qui recrute bien, enfin ce club qui recrute mal, mais c'est aussi l'entraîneur qui joue au foot face à l'entraîneur qui refuse de jouer au foot. Donc s'il y a quand même une morale dans le football, Guardiola va remporter le titre de champion d'Angleterre. Et Mourinho, alors certes, il a beau dire que c'est extraordinaire parce que ça fait longtemps que Manchester United n'avait pas fini deuxième, mais franchement, voilà, il avait un matériel sous la main colossal, renforcé par Alexis Sanchez, au mercato d'hiver, un joueur que j'adore, pour faire ça, se faire éliminer par Séville en Ligue des Champions et donner un spectacle pitoyable, se fâcher avec Pogba, bon, peut-être il y a des bonnes raisons, mais on les comprend pas, tout ça est un peu obscur, pour où partent les millions de l'actionnaire américain. Donc effectivement, souvent on dit que Manchester City comme le Paris Saint-Germain sont des fake projets montés de toutes pièces sur l'argent. Là franchement, on voit quelque chose de sympa à City. On voit de l'argent bien dépensé, on voit des joueurs extraordinaires, on voit De Bruyne qui a été acheté avant faire des saisons magnifiques, on voit des systèmes de jeu nouveaux, ou en tout cas une intensité nouvelle en Première Ligue. Je sais pas ce que donnera le choc contre Liverpool, mais ils sont vraiment en capacité de faire un triplé cette saison. City, ça serait extraordinaire parce que cette équipe de Guardiola, elle est en train, comme après Barcelone, peut-être de marquer l'histoire.
D'impressionner,
du foot.
Effectivement, et bien au-delà des frontières et en Ligue des Champions. Derrière, eh bien, c'est un peu comme, par contre, en France, on se dispute encore et on se dispute les places européennes. D'autant que finalement, la victoire des Spurs à Stamford Bridge, de Tottenham, à Chelsea, a rapproché tout le monde. Bagarre donc entre Manchester City, Liverpool et Tottenham pour la deuxième place. Par contre, pour Chelsea, eh bien, ça sera sans doute difficile d'accrocher cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs, l'entraîneur italien Antonio Conte le reconnaît.
D'un côté, on doit être réaliste et comprendre que les équipes devant nous au classement avancent très vite. Aujourd'hui, on avait une belle opportunité de réduire l'écart avec Tottenham, mais on n'a pas su la saisir. Alors on va s'accrocher jusqu'à la fin et faire de notre mieux. Tout tenter, lors de ces 7 dernières rencontres, de décrocher une place en Ligue des Champions. Mais ce ne sera pas facile, tout le monde le sait.
C'est pas une surprise en fait, en plus vu la saison en dents de scie de Chelsea, Salim, on savait qu'ils étaient un peu mal embarqués.
On le disait en début de saison, ce qui nous gênait nous avec Chelsea par rapport aux autres équipes qui sont devant cette formation, c'est notamment le banc. Dès que des joueurs se blessent, eh bien vous n'avez pas forcément d'autres qui peuvent les remplacer comme il le faut, notamment en défense. Les responsabilités qui ont été données au jeune Christensen, c'est un jeune qui semble avoir du talent, mais il est encore très jeune. Par rapport à Gary Cahill et d'autres notamment.
Moi, tu vois, je pense que Christensen, je préfère largement ce joueur-là que Rudiger.
Oui, là c'est l'exemple. Tiens, exactement, Rudiger qui est arrivé pour très cher.
Exactement. Lewis, c'est lui qui l'a ostracisé.
Mais aussi, c'est blessé aussi David Luiz. Oui. Il y a eu également de la tension entre les deux hommes.
On se souvient aussi l'histoire Diego Costa où il l'a ostracisé pour finalement l'envoyer vers l'Espagne.
Et prendre Morata qui est pas meilleur. Oui, il y a aussi c'est des raisons. Après, globalement, le mercato a été raté, c'est-à-dire qu'on s'est pas renforcé, on n'a pas pris des joueurs en plus,
aboutissement. Oui. On le sentait ce mauvais
le climat délétère aussi entre Conte et Abramovic. Moi, je me rappelle très tôt dans la saison, octobre-novembre à peu près, Conte laisse planer qu'il va s'en aller, qu'il en a marre
de l'étranger. C'est numéro 2
avec Kranevskaya,
responsable du recrutement. Parce qu'il a pas trop la main sur le recrutement, c'est un peu pour ça qu'il s'en va.
Voilà, donc il y a grosse ambiance avec les dirigeants. Vous prenez un garçon comme Eden Hazard, qui absolument pas auréolé son statut de star, qui dès qu'il a un micro sous le nez vous parle du Real Madrid. c'est la vérité aussi.
Avec
vous
avez
pas mal de joueurs comme Fabregas, comme on parlait de Morata.
Ça avait un peu mal à tous les étages.
Thibaut Courtois qui écoute un petit peu le marché pour partir.
Chelsea s'est affaibli. Les relations entre dirigeants et entraîneurs étaient pas au bout fixe. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas.
Mais la place est bonne, hein, parce que je vois que Luis Enrique rêve d'entraîner Chelsea.
Il y a quand même pas mal d'entraîneurs qui quitte Chelsea en très mauvais termes. Alors Mourinho exception,
turnover comme on pourrait dire, mais il y a Mourinho, un changement, une alternance d'entraîneur à Chelsea, c'est
sur
phénoménal.
Sur le cas Mourinho, c'est peut-être un peu plus particulier parce que l'entraîneur, mais rappelez-vous Di Matteo, rappelez-vous Benitez, je crois qu'Avram Grant aussi Gus Hiddink, Avram Grant était parti aussi en mauvais termes. Enfin, c'est très compliqué, de plus en plus compliqué, je trouve, pour les entraîneurs à Chelsea.
Et juste Dominique évoquait à l'instant la numéro 2 de cette équipe. Pour bien comprendre l'organigramme du club, donc vous avez effectivement Roman Abramovich qui est le propriétaire, vous vous avez un président, mais qui est un président factice, en l'occurrence Monsieur Buck, qui c'est pas lui qui prend la décision. Et Marina Granovskaya, c'est elle en fait qui gère au final tout ce qui est le mercato autour de cette équipe de Chelsea. Et c'est lui, c'est elle pardon, qui décide vraiment. Mmh. Donc
c'est la guerre avec Conte.
Si Conte veut X joueur et elle dit non, je veux pas X, je veux Y, ce sera le Y qui viendra. Et c'est ce qui a gêné dès le début de saison, notamment il y avait eu un départ aussi, Nemanja Matić, on l'a oublié, mais lorsqu'il est parti à United, Chelsea, Conte oui. voulait absolument le garder, et ça a déjà fissuré, ça avait à l'époque fissuré pas mal.
Je sais pas ce que Giroud fait dans cette équipe, pour 20 millions d'euros.
Ouais, c'est ça, quasiment.
20 millions d'euros à 31 ans, c'est quand même un espoir.
Et le truc, c'est, alors, Conte disait, je veux quelqu'un de ce profil-là, quelqu'un de grand dans la surface de réparation. Alors, pourquoi pas, à la limite? Mais, notamment, lors du dernier match hier, lorsqu'il était en jeu, il n'a pas eu un centre. On se dit, mais vous avez votre grande tige devant. Mmh. Très bien, allez-y, mais centrez pas.
Passez-lui les ballons.
Pas un seul centre.
Et Batshuayi, par instant-là, plutôt, régale plutôt Dortmund.
C'est ça, mais c'est Conte qui n'en voulait pas. Allez comprendre là aussi les choix de l'Italien.
Donc il récolte un peu ce qu'il a semé ou ce qui a été semé autour de lui. Juste une question encore sur ce classement anglais, Salim. On a donc Manchester United deuxième, Liverpool troisième, Liverpool qui a un match en plus, et puis Tottenham. Est-ce que selon vous ça va rester comme ça ou même Manchester United est-il menacé sur son deuxième, sur sa deuxième marche?
Clairement, United est clairement menacé. Déjà, il y a ce fameux City United qu'on évoquait la semaine prochaine, donc United peut perdre
et Liverpool peut en profiter.
Et Liverpool peut en profiter, voire Tottenham. Tottenham qui, donc, n'a plus de Coupe d'Europe, contrairement à Liverpool. Et les Spurs finissent en boulet de canon avec Harry Kane, surtout, qui est déjà de retour dans le groupe. On pensait qu'il s'était blessé gravement face à Bournemouth. D'ailleurs, le club avait communiqué sur une absence assez longue. Il s'était blessé le 11 mars, il est revenu le 1er avril. Comme quoi, lui aussi, il est déjà dans les starting blocks pour en plus continuer avec l'Angleterre. J'ai envie de dire, lui, ces trois semaines ont été parfaites pour lui. Il a pu se reposer pendant trois semaines. C'est idéal pour être frais pour la fin de saison.
En tout cas, il reste encore du suspense. C'est rare quand même que le champion anglais arrive aussitôt dans la saison. On se souvient de l'année où les Foxes s'étaient battus pratiquement jusqu'à la
totalement.
Fin pour Leicester.
Et même Chelsea, la saison dernière, avait obtenu le titre à l'avant-dernière journée. En
c'était
fait.
Avec Mourinho que ça avait été un peu tôt dans la
exactement,
saison, mais presque
pas,
trop tôt.
Pas aussitôt. Là, ce sera un record si effectivement, dans l'histoire de la Première Ligue, au bout de la 33e journée, si ça arrive, ce serait effectivement historique.
Record de points, record avec Guardiola, on a l'habitude de toute façon.
Ça.
Pour terminer cette émission, je voulais m'arrêter sur un petit fait qui a eu lieu dans la sphère, on va dire, entre les journaux, les réseaux sociaux et tout. Un poisson d'avril qui a été lancé par nos confrères de Jeune Afrique et qui n'a pas beaucoup plu et qui a trompé beaucoup de monde en plus. Parce que Jeune Afrique a publié une interview où ils informaient que Samuel Eto'o était candidat à la présidence de la République au Cameroun. En tout cas, qu'il le serait et mettait ces mots « je rêve de la présidence » comme Jules César rêvait de Rome. Ça paraît tellement gros et en fait, il est écrit « interview imaginaire ».
Ah.
Mais ça n'a pas du tout plu, plein de confrères ont repris l'information, et à tel point que Samuel Eto'o a dû réagir officiellement sur sa page Facebook, c'est ça hein, Naïm, vous l'avez
oui.
vu aussi.
Oui, oui.
Et alors en disant, j'estime que les propos tenus à mon encontre portent atteinte à mon honneur et véhiculent de nombreuses allusions malsaines.
Et toujours premier degré Samuel. Hein. C'est un joueur fabuleux, mais alors sorti du terrain, c'est quand même un type un peu bizarre.
Ça pouvait être drôle.
Si des gens y ont cru, c'est peut-être que c'était crédible. C'est-à-dire que peut-être qu'on imagine Samuel Eto'o dire ça parfois, parce que il a toujours eu une image de lui-même assez élevée.
Bien sûr.
C'est pas bien grave. Hein. Il y a des très grands acteurs comme Alain Delon qui ont une opinion d'eux-mêmes extrêmement élevée aussi. Donc tout le monde n'est pas modeste comme Salim, quoi.
Exactement. Il y a deux choses tout de même à aborder. Vous avez dit le terme interview imaginaire. Donc déjà, certains confrères qui ont pu reprendre cela, déjà, vous n'avez qu'à lire au final intégralement le propos et tout lire et voir
lire.
Que d'une part c'est imaginaire. Et d'autre part, alors là c'est le journaliste que je suis qui parle, d'autres peut-être ne sont pas du tout d'accord avec moi, les auditeurs également, mais le coup des poissons d'avril, ça me paraît quand même une aberration, on est en 2018 à un moment donné. Passons à autre chose, des médias qui continuent de faire ces pseudo-histoires, ça ne sert strictement à rien, la plupart du temps c'est pas marrant.
C'est une tradition,
c'est ridicule.
Non, bien sûr, mais ça m'arrête pas tout ça. Quoi.
C'était lequel le vote, Dominique, vous n'en avez pas
non,
fait
Non, je crois que le PSG a gagné la Coupe de la Ligue. Non.
Ah bon
Non, c'est vraiment vrai.
Non, c'est pas vrai.
C'est la fin de ce Radio Foot International, merci beaucoup messieurs. Un petit message spécial du côté de Dakar, de la part de David Finzel à Oumar Ndiaye. Les baobabs nains sont bien arrivés à Paris. Ouh. Voilà, merci à David Finzel et à Laurence Salerno. Et à demain.
Là, c'est effectivement...